Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceau, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafont. Cette semaine, nous allons revenir sur deux films que nous n'avions pas chroniqués, puisque la semaine dernière, nous étions absents. On va donc parler de Furiosa, une saga de Mad Max, de Marcello Mio, mais on va aussi parler des films qui sont sortis cette semaine, Greenhouse, Memory, La Belle de Gaza, Abigail, Salem, Une autre vie que la mienne. La programmation musicale, on va aller beaucoup prendre de titres dans le film Marcello Mio, parce qu'il est assez riche en la matière, mais pas que. On aura aussi un titre du film Memory, un titre qui a une importance dans le film. Et là, on fera un blind test avec Pierre, et s'il ne répond pas, alors là, c'est la honte absolue, parce que franchement, le titre est hyper connu. Allez, on commence donc notre semaine avec Étienne Nao, Le Grand Sommeil. C'est un titre que l'on entend dans le film Marcello Mio, et donc sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
C'est la raison pour laquelle je ne veux plus.
Étienne Dao, Le Grand Sommeil, un titre que l'on entend dans Marcello Mio, mais il me semble qu'on l'entend interprété par Benjamin Biolay et avec des paroles adaptées à la situation. Mais on l'entend aussi quand même la chanson d'Étienne Dao par Étienne Dao. Voilà, on commence notre semaine cinématographique avec Furiosa, une saga de Mad Max. C'est possible de voir le film au Colisée, au Méga CGR, au Pathé Quinconce. On peut le voir éventuellement même en VO, certains jours, certaines heures. C'est le film qui est sorti la semaine dernière, qui avait été présenté à l'avant-première au Festival de Cannes. Le réalisateur, c'est George Miller. George Miller, réalisateur, scénariste, producteur australien, né en 85, donc pas tout jeune. Il s'est fait connaître en 79 avec Mad Max, qui avait aussi fait connaître Mel Gibson. Succès de Mad Max, donc en 81, Mad Max 2, toujours avec Mel Gibson. Toujours succès, donc 85, Mad Max au-delà du Dôme du Tonnerre, avec Mel Gibson et Tina Turner. Et puis, George Miller change un petit peu et adapte... Il réalise Lorenzo en 92 avec Nick Nolte et Susan Sarandon. 95, Babe, le cochon devenu berger avec James Cromwell. Et comme le film a eu du succès, eh bien, 98, Babe, le cochon des villes, toujours avec James Cromwell. 2006, dessin animé Happy Feet. Comme ça a eu du succès, eh bien, en 2011, Happy Feet 2. Et puis, retour à Mad Max en 2015, Mad Max Fury Road avec Charlize Theron et Tom Hardy. 2017, un film en DVD dans la saga Mad Max, mais je ne sais pas ce que c'est parce que je n'en ai jamais entendu parler. Et en 2022, un film qui n'est pas, moi, j'ai pas un souvenir exceptionnel, 3000 ans à t'attendre avec Tilda Swinton et Idris Elba qui avait été présenté lui aussi à Cannes. Allez Pierre, parle-nous de ce Mad Max, de Furiosa, une saga Mad Max.
Alors tout d'abord, avertissement, ce film est interdit au moins de 12 ans.
Normal.
Le synopsis, dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Demantus. Alors qu'elle tente de survivre à la désolation, à Immortanjo, et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une seule obsession, la vengeance. La revue de presse, le journal du dimanche, le cinéaste australien qui jubile à s'auto-cité gratifie son public de vision d'une beauté hallucinante, contrebalancée par la barbarie et la tragédie, avec une virtuosité, une énergie et une audace sidérante dans sa mise en scène de l'action. Ouest France avec Sylvestre Picard, le film est une épopée immense, fabuleux. Le Figaro avec Olivier Delcroix, George Miller livre un film surpuissant, effrayant et jouissif. Anya Taylor-Joy est aussi laconique que flamboyante. Le Parisien avec Renaud Baronian, une incroyable succession de courses poursuites dans le désert, des séquences absolument ahurissantes, telles qu'une cavalcade motorisée de 15 minutes, mettant en scène un camion-citerne géant et des motos, ou l'attaque d'une mine par des centaines de véhicules lourdement armés. Le Point avec Philippe Gage. Une fois encore, le spectacle est époustouflant. Hors norme, fracassant, jubilatoire, Furiosa mixe avec une sidérante harmonie paradoxale le plaisir régressif de course-poursuite explosive et une écriture jouant savamment avec les archétypes. Libération avec Olivier Lam. Reprenons la saga d'action tout en course folle de bolide dans la poussière. George Miller offre au fabuleux Fury Road une suite rutilante et à la hauteur. Télérama avec Jérémy Couston. On retrouve ici tout ce qui nous avait emballé alors. Le bruit et la fureur, les odeurs d'essence et le sable dans les bouches, le camion-citerne assiégé et les War Boys kamikazés au crâne rasé et à la peau peinte en blanc, l'odyssée sans destination jusqu'à épuisement du carburant et des spectateurs. L'Obs par Nicolas Chaleur. Plus long et chargé en effets numériques, le film, sorte d'hybridation des précédents épisodes, n'ajoute rien de crucial à la mythologie, mais assoit la virtuosité de Miller, qui nous embarque en quelques séquences dantesques. Télé 7 jours avec Isabelle Magnier. Miller s'en sort avec les honneurs, même si l'intrigue, bien mince, file droit vers la vengeance de Furiosa, incarnée par une Anya Taylor-Joy convaincante. Et enfin, Le Monde avec Jacques Mandelbaum. Moins percutante que dans Fury Road, la mise en scène de l'action reste cependant de nature à satisfaire les amateurs du genre qui n'aiment rien tant que de tourner furieusement en rond.
Alors précisons qu'on peut voir le film en 4DX, donc ça a quand même beaucoup bougé. Et puis on peut le voir en salle ICE aussi, au Méga CGR, et puis dans certaines séances en VO. Donc démentiel et sauvage sont les qualificatifs qui viennent à l'esprit après la projection du film de George Miller, qui est un préquel de Mad Max Fury Road, qui nous montre comment donc Furiosa est devenue cette héroïne guerrière de la saga. Donc l'intrigue est sommaire, hein, on est dans un monde post-apocalyptique comme toujours. Furiosa a été enlevée enfant à sa mère et à sa cité. Elle n'aura dès lors de cesse de se venger du sanguinaire, on peut dire ça comme ça, Démantus, son ravisseur. Alors, dans le détail, c'est cependant un petit peu confus dans cette guerre entre seigneurs de la guerre rivaux et leurs hordes sauvages motorisées, qui sont tous plus brutaux et barbares les uns que les autres. Alors, ils sont tantôt alliés, tantôt ennemis, au gré des circonstances, mais ce qu'on retiendra du film beaucoup plus que son histoire, ce sont les scènes d'action. Les scènes d'action, ce sont des courses-poursuites et des cascades menées par des engins motorisés futuristes de toutes sortes, motos, camions, voitures, tous customisés de façon absolument extravagante et qui se livrent des combats dantesques. Alors certes, on a déjà vu ça dans le Mad Max précédent, dans le Fury Road, c'est du même calibre, mais c'est toujours aussi spectaculaire. C'est inouï de virtuosité, puis c'est magnifié par une mise en scène et un montage ahurissant d'inventivité, le tout dans des décors naturels ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut penser qu'il y a beaucoup de numérique dans les décors aussi, qui sont époustouflants et avec une direction artistique, les costumes, les décors, les maquillages, des accessoires d'une folie totale. Alors, certes, si on veut chipoter un peu, il y a quelques scènes, dont l'avant-dernière qui est un petit peu bavarde, mais c'est quand même peanuts à côté du spectacle offert pendant 2h20, sans temps mort. Et puis c'est tellement supérieur aux films de super-héros décérébrés qu'Hollywood nous produit à la chaîne et qui ne m'impressionne plus du tout. Là, par contre, on a vraiment un spectacle époustouflant. Et ceux qui aiment ce genre de film, il faut absolument le voir. 2h20, on ne les sent pas passer. Voilà, ça s'appelle Furiosa, une saga de Mad Max. Et c'est proposé au Pathé Quinconce, au Méga CGR et au Colisée. Toujours la semaine dernière était sorti Marcello Mio, c'était sorti au Cinéaste, au Pathé Quinconce et au Méga CGR. Marcello Mio, c'est un film de Christophe Honoré, réalisateur, scénariste, acteur, né en 70. En 2001, son premier long-métrage s'appelait 17 fois Cécile Cassard, avec Béatrice Dalle et Romain Duris. Et puis ensuite, 2003, Ma mère, avec Isabelle Huppert, Louis Garrel, qui va devenir son acteur fétiche en quelque sorte, et Emma Decaune. 2006, Dans Paris, avec Romain Duris et Louis Garrel. 2007, Les chansons d'amour avec Louis Garrel, Ludivine Sagné. 2008, La belle personne avec Louis Garrel et Léa Seydoux. 2009, Non ma fille, tu n'iras pas danser avec Chiara Mastroianni, qui là devient son actrice fétiche, et Marina Foïs. 2010, Homme au bain avec Chiara Mastroianni. 2011, Les bien-aimés avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Ludivine Sagné. 2014, Métamorphose avec Amira Akili. 2016, Les malheurs de Sophie avec Anaïs de Moustier et Muriel Robin. 2018, Plaire, aimer et courir vite avec Vincent Lacoste et Pierre Deladonchamp. 2019, Chambre 212 avec Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay et Vincent Lacoste. 2021, Guermantes, qui avait été proposé sur Arte d'ailleurs, en même temps, c'était au moment du confinement. 2022, Le lycéen avec Paul Kircher, Vincent Lacoste et Juliette Binoche. Pierre vous parle davantage de ce film, Marcello Mio, synopsis et revue de presse.
Durée 2 heures, le synopsis, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Chiara. Elle est actrice, elle est la fille de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve. Et le temps d'un été, chahutée dans sa propre vie, elle se raconte qu'elle devrait plutôt vivre la vie de son père. Elle s'habille désormais comme lui, parle comme lui, respire comme lui, et elle le fait avec une telle force qu'autour d'elle, les autres finissent par y croire et se mettent à l'appeler Marcello. La revue de presse, le journal du dimanche, Marcello Mio, amuse autant qu'il émeut, trouble aussi à l'image de sa remarquable actrice, livrant dans le vrai faux rôle de son père une prestation inoubliable. Cinématiseur avec Renan Cross, d'un postulat étonnant, Christophe Honoré tire une fantaisie sur le deuil et les fantômes d'une vie drôle, libre, mais surtout d'une infinie délicatesse. L'Obs avec Xavier Le Herpeur, sensuel et complice, la mise en scène accompagne ses corps bien-aimés dans ce dédale, hommage au 7e art dans lequel il est si doux de se perdre. Lacroix avec Céline Rouden, Christophe Honoré a l'art de nous mener en une fraction de seconde des rires aux larmes et transforme ce qui pourrait apparaître de prime abord comme une gentille comédie auto-centrée et germano-pratine en une fable universelle à même de toucher chacun d'entre nous. Le Parisien avec Catherine Ball, entre scènes comiques et chansons nostalgiques, Marcello Millo parle du deuil avec grâce, poésie et beaucoup d'autodérision. Le Point avec Jean-Luc Wachthausen, une jolie comédie portée avec beaucoup de charme et de fantaisie par Chiara Mastroianni qui enfile le costume de ce père omniprésent dans sa vie et ses rêves. Ouest France avec Pascal Vergerot, ce film est un petit bijou de tendresse et d'humour pour les amoureux de Marcello Mastroianni et pas seulement, on l'espère. Première avec Thierry Chaise, Honoré déploie une comédie irrésistible, hymne au 7e art, dans ce qu'il peut avoir de poétique et vertigineux dans sa manière de gommer les frontières entre fiction et réalité. Télérama avec Louis Guichard, Christophe Honoré nous réchauffe le cœur et nous donne de l'élan avec cette fantaisie aussi drôle que poétique. Les Échos avec Adrien Gombeau, Christophe Honoré nage sans doute ici dans un bassin de cinéma trop grand pour lui, son film n'en reste pas moins amusant et souvent touchant. Libération avec Olivier Lam, malgré une inspiration certaine derrière son scénario, qui voit l'actrice en pleine crise d'identité réincarner son père disparu, le film du français ne dépasse pas le vaudeville mondain. Et enfin, celle qui n'a pas aimé, c'est Véronique Coapé pour Le Monde. La matière documentaire ici investit une fiction dont on ne saisit pas l'enjeu, si ce n'est celui de survoler quelques grands motifs, tels que le poids de la filiation, l'importance de l'héritage, le vide que laisse la disparition d'un père auquel, de surcroît, on ne cesse de vous renvoyer.
Voilà, donc ça s'appelle Marcello Millo et c'est proposé aux cinéastes, au Pathé Quinconce et au Méga CGR. Alors c'est une fantaisie tour à tour drôle, touchante, gênante, voire malaisante, poétique, pleine d'autodérision. C'est quand même pour cinéphiles et happy few. Hein. Il vaut mieux avoir quand même des connaissances sur la vie et la carrière de Marcello Mastroianni. Et même avec ses connaissances, il est possible que certaines allusions vous échappent, hein, ça c'est pas exclu. L'idée de départ est originale, Chiara Mastroianni se réveille un matin et décide d'être son père, Marcello. Certaines personnes de son entourage acceptent d'entrer dans son jeu. Il faut dire que par exemple, elle s'habille comme lui, elle met les mêmes lunettes que lui, elle se fait sa tête quoi, en quelque sorte. Mais d'autres sont plus réticents avant finalement d'accepter cette lubie. C'est l'occasion de reparler de l'acteur italien, de sa carrière, des lieux marquants de sa vie, ses amours, mais aussi d'aborder des thèmes comme la filiation, le deuil, le cinéma en train de se faire, les émissions de télé racoleuses et l'intrication entre vie privée et vie publique. Ceci un film hommage à l'acteur de la Dolce Vita. Au total, moi j'ai trouvé le film inégal, je trouve qu'il s'égare parfois, comme avec cette vague histoire esquissée avec un soldat anglais, mais qui est peut-être un rappel de quelque chose d'important dans la vie de Marcello Mastroianni, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui m'a complètement échappé. Ou alors, c'est une histoire inventée de toutes pièces, mais alors à ce moment-là, elle est sans grand intérêt. Alors, on retrouve dans leur propre rôle Catherine Deneuve, qui est la mère de Chiara Mastroianni et la compagne de Marcello Mastroianni, Benjamin Biolay, qui est un ex-compagnon de Chiara Mastroianni, Melville Poupeau, qui est un ex aussi de Chiara Mastroianni et qui était un ami de Marcello, Nicole Garcia dans son propre rôle de réalisatrice et Fabrice Luchini, étonnant, devenant le meilleur ami de Marcello Chiara et rentrant lui complètement dans son jeu. Donc c'est un film un peu fourre-tout, mise en abîme où réel et fiction se mêlent, un peu surréaliste et quand même aussi quand même symbole un petit peu de l'entre-soi du cinéma français comme certains critiques l'ont souligné. Mais c'est aussi un exercice de mise en scène habile de Christophe Honoré. Donc c'est quand même avant tout, je le répète, un film pour cinéphiles qui a peu de chances d'intéresser vraiment le grand public. D'ailleurs, je me trompe pas parce que j'ai vu les chiffres d'entrée et ça marche pas du feu de Dieu, quoi. C'est un film pour cinéphiles. Voilà ce qu'on peut dire sur Marcello Millo. Alors, j'ai mis la pression sur Pierre sur un titre qu'il va devoir trouver dès la première note de musique qu'on entend dans le film Memory dont on parlera après. Alors, on va voir si mon petit Pierre, je pense pas, il peut pas me décevoir là-dessus. C'est pas possible.
Procolaro.
Bravo, quand même.
Ah oui, c'est un tube, ça.
Ah oui, c'est un des tubes mythiques pour moi.
Ah oui.
Ça fait partie de mon top 50.
67.
Ouais.
Mmh. kiss at first, just go sleep. Turn the wider shade off.
Column Room, Wider Shade of Pale, un des plus beaux slow de tous les temps. Moi, j'ai dansé là-dessus quand j'étais jeune dans les booms. Ouais, et c'est plus ou moins adapté, inspiré d'un morceau de musique classique. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas de Jean-Sébastien Bach, d'ailleurs.
C'est possible.
Je crois bien. Enfin, bref, c'est toujours un bonheur pour moi d'écouter Wider Shade of Pale.
Ce son d'orgue, on n'en a plus des sons comme ça.
Ah non, 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 absolument. Et puis bon, c'était magnifique, quoi. Bon, allez, Green House, c'est un film... coréen de Corée du Sud, réalisé par Sol Yoo Lee, c'est une réalisatrice, je crois,
oui,
scénariste, monteuse, et c'est son premier long métrage. Ça dure 1h40, c'est proposé par les cinéastes avec 2 séances par jour. Aide-soignante à domicile, Moon Jung s'occupe avec bienveillance d'un vieil homme aveugle et de sa femme. Mais quand un accident brutal les sépare, tout accuse Moon Jung. Elle se retrouve à devoir prendre une décision intenable. La presse, qu'en pense-t-elle? Eh bien, Renaud Baronian dans Le Parisien, à la charnière du drame, du thriller psychologique et du film d'horreur, cet ovni coréen au suspense angoissant surprend par son jusqu'au boutisme sans concession et la manière dont le film pousse sans cesse son anti-héroïne vers les ténèbres. Adrien Gombeau, Les Échos, entre mélo et thriller, Green House propose 2 films en 1. La réalisatrice coréenne signe un premier long métrage un peu hésitant, mais prometteur. Isabelle Danel dans L'Obs, lumière et images superbes pour ce premier long métrage au féminin qui charge quand même trop la mule côté scénario. François Léger dans Première, un premier film pas exempt de défauts, la conclusion un peu décevante, certaines scènes à la limite du crédible, mais dont le rythme lent et la pudeur de la mise en scène parviennent à refléter la cruauté du piège dans lequel s'est mis elle-même sa protagoniste. Jean-Marc Samoki dans Cahiers du cinéma, plutôt que du thriller, la logique ici à l'œuvre tient d'un burlesque distancié et dérangeant, amplifié par l'usage du montage alterné. La cinéaste reste trop attachée aux accents sardoniques de son récit pour atteindre une violence lyrique où la forme elle-même parviendrait à s'autodétruire. C'est un peu abscon, hein, ça. Vincent Ostrigal, l'humanité. La mise en scène trop en demi-teinte donne une impression de grand écart intenable. Ça s'appelle donc Green House et c'est proposé par les cinéastes. Donc, c'est l'histoire de Moon Jung. C'est une auxiliaire de vie à domicile auprès d'un couple de personnes âgées. Alors, lui, il est aveugle ça a son importance. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle, ça a aussi son importance pour la suite. Si c'était l'inverse, ça marcherait pas, la suite. Moon Young vit seul. Son fils est en prison, semble-t-il, hein, mais pourquoi, on ne le saura pas. Elle participe aussi à un cercle de parole où elle se fait une amie qui va devenir très envahissante. Et puis un jour, sa patronne, entre guillemets, meurt, on peut le dire, hein, accidentellement. Pour une raison inexplicable, Moon entreprend, par un subterfuge que je vous laisse le soin de découvrir, entreprend de cacher cette mort. Alors, il ne faut pas être trop fan de vraisemblance, hein, mais bon, c'est comme ça. Il faut quand même avoir beaucoup de patience pour apprécier ce film au cours duquel il se passe quasiment rien pendant une heure, qui vaut essentiellement par ses 20 dernières minutes d'une cruelle ironie bien noire. Donc, à moins d'être très intéressé par le sort réservé aux personnes âgées en général et dans la société, de la société coréenne, sud-coréenne en particulier, je vois pas trop à qui recommander ce soporifique long-métrage sur une femme névrosée dont on ne comprend pas toujours très bien les motivations et sa façon de gérer ses relations avec les autres. Pierre ?
Je vais être moins dur quand même.
Moins dur. Bon.
Alors, Greenhouse, mot à mot, maison verte. Sauf que là, les deux mots sont accolés. Ce qui signifie alors la serre. Mais où est donc cette serre, si ce n'est peut-être, et sans doute d'ailleurs, l'habitation précaire de l'héroïne ? Ce film est typiquement asiatique. Il est lent, très lent même, surtout dans sa première partie, où il se passe peu de choses, me poussant parfois à l'ennui.
Ah oui.
Par contre, la deuxième partie est bien digne d'un thriller, de l'angoisse, des rebondissements, des inattendus, jusqu'à une fin aussi abrupte que saisissante qui nous laisse dans l'expectative.
Exactement.
Ah oui, on se pose des questions. La jeune réalisatrice coréenne est prometteuse, même si là il y a quelques longueurs, c'est vrai. Dans la lignée de Parasite en 2019 et Burning en 2018, Greenhouse nous emporte dans le thriller moderne à la sauce coréenne.
Sud-coréenne, oui. C'est proposé par les cinéastes avec deux séances par jour. On reste au cinéaste avec Memory. Memory, c'est un film de Michel Franco, Michel parce que c'est un Mexicain, réalisateur, scénariste, producteur mexicain en 1979. Il avait réalisé en 2009 Daniel y Anna, 2012 Después de Lucía, 2015 Chronique avec Tim Roth. Je ne cite pas les acteurs des autres films parce que c'est des acteurs mexicains, je pense, qui ne sont pas connus en France, en tout cas moi je ne les connais pas. 2017 Les Filles d'Avril, 2020 Nouvel Ordre et 2021 Sundown avec Tim Roth et Charlotte Gainsbourg. Pierre, parle-nous de Memory.
Alors, durée 1h40 avec Jessica Chastain, ou Chastain, oui, parce qu'elle est américaine en fait, Peter Sarsgaard et Brooke Timber. Le synopsis, Sylvia mène une vie simple, structurée par sa fille, son travail et ses réunions des AA.
Alors, alcoolique anonyme.
Ah d'accord, bah, j'avais pas...
Ah mais parce que tu n'en fais pas partie, c'est pour
non,
ça.
Non, bah, heureusement. Pourtant, ses retrouvailles avec Saul bouleversent leurs existences, réveillant des souvenirs douloureux que chacun avait enfouis jusque-là. La revue de presse avec Ouest France par Thierry Chaise, un film déchirant du réalisateur mexicain Michel Franco, où le duo Jessica Chastain-Peter Sarsgaard, primé à la Mostra de Venise, fait merveille. Elle, Memory, est un magnifique film sur les débuts d'une histoire d'amour singulière qui se construit en dépit des avis hostiles de l'entourage. Le Figaro, avec Étienne Sorin, pour une fois, le cinéaste mexicain ne donne pas envie de se pendre. En abandonnant ses personnages laids et détestables, le réalisateur érige un drame qui, en renversant les codes de la comédie romantique, manifeste tout de même un amour d'une puissance indomptable. Le Journal du Dimanche, sa mise en scène naturaliste, clinique, crue, à distance, n'empêche en rien l'empathie qu'on éprouve pour les personnages, poignant. Le Parisien, avec Renaud Baronian, film certes sombre par moments, Memory multiplie les séquences lumineuses et offre un final absolument incroyable en comptant l'histoire de ces deux laissés pour compte, en apparence en opposition, l'un tâchant de retrouver sa mémoire, l'autre faisant tout pour oublier son passé, un grand film. Libération avec Laura Tulier. Le cinéaste mexicain, que la rigueur empêche de tomber dans la mièvrerie, réalise un beau film d'amour sur un couple qui réussit à se blottir dans les trous de mémoire. Télérama avec Marie Sauvion. Le cinéaste mexicain surprend en cheminant vers la douceur, l'espoir, et signe un splendide mélo sec, c'est-à-dire à l'os et sans pathos. Marianne avec Olivier De Bruyne. Le cinéaste signe un film maîtrisé et troublant, incarné par un impeccable duo d'acteurs, Jessica Chastain et Peter Sarsgaard. Et enfin, je termine comme d'habitude par celle qui n'a pas aimé, c'est Isabelle Danel pour L'Obs. Michel Franco a le titre pour concocter des histoires gigognes qu'il filme, hélas, à la truelle, enfonçant le clou de chaque intention. Il est, une fois de plus, sauvé par ses acteurs qui font un peu affleurer l'émotion sous la couche volontariste.
Oui, c'est un peu sévère, là. Hein. Donc, oui. Memory, c'est proposé par le cinéma Les Cinéastes, donc forcément, c'est en version originale, 2 séances par jour. Sylvia, auxiliaire de vie, et bien là, encore une auxiliaire de vie, mais cette fois-ci, auxiliaire de vie dans un foyer pour adultes. Ancien alcoolique, donc assidu aux réunions des alcooliques anonymes, élève seule sa fille adolescente. Un soir, après avoir assisté à une réunion d'anciens élèves de son lycée, elle est suivie jusque chez elle par un inconnu. Celui-ci passe la nuit dehors au pied de son immeuble et au matin il ne se souvient plus de rien. Voilà, donc ça c'est le début du film. En effet, eh ben, il s'avère que cet inconnu est un homme atteint d'une forme d'amnésie. Dans un premier temps, Sylvia croit reconnaître en Saul, un ancien élève de lycée, un ancien condisciple, un ancien camarade, entre guillemets, qui lui a jadis fait subir une agression sexuelle. Mais quand elle découvre qu'elle s'est finalement trompée, une relation se noue entre eux, entre donc Sylvia et Saul, prélude à l'apparition d'une possible histoire d'amour et de résilience. Alors, le défaut du film, c'est qu'il met quand même là aussi beaucoup, beaucoup de temps à vraiment entrer dans le vif du sujet. En dehors de la naissance de la relation entre Sylvia et Saul, qui s'apprivoisent mutuellement avec douceur et empathie, il ne se passe pas grand-chose. Et ce n'est qu'après 1h10 qu'il y a une scène, là vraiment une scène hyper forte, qui fait basculer le film et comprendre le traumatisme qu'a vécu Sylvia dans son enfance et qui dès lors la hante, expliquant son attitude à l'égard de ses proches, de sa sœur, de sa fille qu'elle surprotège, de sa mère qu'elle ne veut plus voir et aussi sa méfiance en général à l'égard du genre humain en quelque sorte. Donc, c'est un drame psychologique sur le traumatisme, c'est le portrait aussi de deux personnages brisés. C'est une histoire d'amour dépourvue de mièvrerie. Voilà dont il est question dans ce film. Un film sobre, dramatique, sans pathos, comme l'ont souligné certains critiques, interprété avec retenue par Jessica Chastain et Peter Sarsgaard. Elle qui voudrait oublier, lui qui voudrait se souvenir. C'est un film intimiste qui met, je répète, quand même beaucoup de temps à vraiment démarrer et à émouvoir. Mais c'est un film dans lequel on entend à plusieurs reprises The Wider Shade of Pale. Donc, on peut lui pardonner beaucoup de choses à ce film-là. Memory, c'est donc les cinéastes que ce film proposait avec 2 séances par jour. On reste au cinéaste avec La Belle de Gaza. La Belle de Gaza, il y a 2 séances par jour là aussi pour ce documentaire de Yolande Zauberman, réalisatrice, scénariste française née en 1955 et également directrice photo. Elle a son actif un certain nombre de films qui sont des documentaires, mais aussi des films de fiction. Alors, on va citer en 87 un documentaire Classified People, 93 un film de fiction Moi, Yvan, toi, Abraham, 96 Clubbed to Death avec Elodie Bouchèze, Béatrice Dalle et Roche Dizem, 2002 La Guerre à Paris avec Elodie Bouchèze et Jérémy Régnier, 2004 un documentaire Paradise Now, journal d'une femme en crise, 2005 Un Juif à la mer, documentaire, 2012, Would You Have Sex With an Arab, documentaire, et en 2018, un documentaire M. Ça n'avait rien à voir avec Mathieu Chédid. Hein. Voilà. Donc, ce film, La Belle de Gaza, ça dure 1h16. Elles, au pluriel, elles étaient une vision fugace dans la nuit. On m'a dit que l'une d'entre elles était venue à pied de Gaza à Tel Aviv. Dans ma tête, je l'ai appelée la Belle de Gaza. Voilà, ça c'est le synopsis, ça vous en dit pas beaucoup, mais comme Pierre l'a vu, va vous en dire peut-être un peu plus. Alors, qu'en pense la presse? Eh bien, Pierre Barbancé dans L'Humanité, Yolande Zauberman a cet incroyable talent de gagner la confiance de ses interlocutrices, ce qui lui permet de dresser pour ce documentaire des portraits tout en humanité. Renaud Baronian dans Le Parisien, un film fort au cours duquel la réalisatrice parvient, malgré les conditions difficiles de tournage, à faire du vrai et beau cinéma. Adrien Gombeau, Les Échos, un film brutal et percutant, enrobé d'images étrangement douces. Pascal Vergerot, West France, un long métrage d'une profondeur et d'une beauté stupéfiante. Thomas Borès dans Première, Yolande Zauberman avec sa caméra n'est pas une intruse qui viendrait puiser le temps d'une immersion quelques sensations. Tout fait corps à l'image. L'échange se matérialise par la grâce d'une mise en scène proche des êtres, d'où émerge une beauté tragique. Et Thomas Borès conclut sacrédit par le terme puissant. Barbara Théâtre de Joie le Dimanche, une balade nocturne et édifiante à travers les destins d'êtres aussi attachants que résilients, à qui l'on donne enfin la parole et qui la prennent avec courage. Xavier Lerper dans l'Obs, on rêverait de n'avoir aucune réserve devant ce bel objet cinématographique, mais on peut regretter que ce film ne s'aventure pas plus loin sur le terrain politique. Pierre a vu La Belle de Gaza, il ne va pas voir son documentaire, mais il l'a vu, donc il va nous en parler.
Oui, par curiosité, puis parce que c'était court. Alors Gaza, un nom malheureusement très d'actualité, mais en fait de conflit il n'est point dans ce documentaire, car tourné avant le début de la guerre. Ce film est court, et je dirais tant mieux, car il devient très rapidement ennuyeux. En effet, il s'agit là d'une suite d'interviews tournées souvent dans une rue de Tel Aviv. Après, tu l'as cité, « Would you have sex with an Arab ?» et « M ?» La réalisatrice française termine aujourd'hui sa trilogie en menant son enquête auprès de transgenres qui se livrent avec plus ou moins d'aisance à la caméra. Elles sont arabes, parlant tantôt cette langue, tantôt anglais, directement à Yolande Zoberman. Ce documentaire, je l'ai trouvé touchant et il interroge sur l'identité.
Voilà, ça se passe à Gaza, oui, mais c'est, on peut voir le film au cinéaste avec 2 séances par jour. Allez, petit blind test, mais là, on part à une période qui est un peu plus éloignée, donc Pierre peut-être ne connaîtra pas, mais enfin, je ne sais pas. C'est quand même un titre très très connu qu'on a déjà entendu plein de fois, même dans Clap.
Et faire David.
Voilà, tu vois. David, connu sous le nom de FR David, Words.
Le S, c'est Fitoussi, c'est son nom de famille.
Ah oui, mais c'est France. Ah bon, d'accord.
Oui, oui.
C'est un titre qu'on entend dans le film Marcello Mio. Donc maintenant, on va parler de Abigail. Abigail, c'est un film d'un duo, Matt Bellinelli-Holpin et Tyler Gillette. Alors Tyler Gillett, je crois que c'est son premier long métrage, mais Matt, non, ils sont tous les deux réalisateurs, co-réalisateurs de 2014. Je disais bien, Matt Bettinelli-Holpin avait réalisé en 2014 The Baby. 2019, Wedding Nightmare, moi je m'en rappelle, c'était un film d'horreur dingue. Et puis 2022, Scream, la suite de la saga Scream. Et 2023, Scream 6. Puis il a aussi réalisé des segments dans des œuvres collectives. Le film Abigail dure 1h49. C'est ça, 49. Mmh. Et Pierre vous en parle.
Alors là encore, avertissement, film interdit au moins de 12 ans.
Ah oui, c'est sûr, oui.
Avec Melissa Barrera, Dan Stevens et Alicia Weir. Le synopsis, suite au kidnapping de la fille d'un puissant mania de la pègre, un groupe de criminels amateurs pensait simplement devoir enfermer et surveiller cette jeune ballerine afin de pouvoir réclamer une rançon de 50 millions de dollars. Retirée dans un manoir isolé, les ravisseurs commencent mystérieusement à disparaître, les uns après les autres, au fil de la nuit. C'est alors qu'ils découvrent avec horreur que la fillette avec laquelle ils sont enfermés n'a rien d'ordinaire. La revue de presse, Le Parisien avec Michel Valentin. Pour cette comédie horrifique qui débute doucement avant de se terminer dans autant d'hectolitres de sang que d'humour, c'est un duo bien rodé à ce genre bien particulier qui officie. Cinématiseur avec Aurélien Alain, Bettinelli, Holpin et Gillette affectionnent les jeux de massacre et le prouvent une nouvelle fois en poussant les potards à 11 dans cet amusant festival d'hémoglobine. Le journal du dimanche, excellente surprise que ce survival se déroulant à huis clos qui revisite le mythe du vampire à travers un dispositif digne d'Agatha Christie, aussi jouissif qu'impitoyable. Un ovni inclassable qui démarre avec une intrigue de polar pour virer rapidement au jeu de massacre. Télérama avec Frédéric Strauss, l'humour et la dérision se mêlent à l'hémoglobine, les combats offrent morsures et danses classiques, sourires et grimaces, le film d'horreur devient match de catch bon enfant, un show parfois amusant, mais bien trop fisté. Et je termine par deux journaux qui n'ont pas aimé, Mad Movie, auteur des deux derniers streams, mais aussi d'un Wedding Nightmare, déjà pas top. Bettinelli, Holpin et Gillette récidivent dans le néo-gothique sanglant en huis clos, sans plus de réussite. Et enfin Sylvestre Picard pour West France, ce huis clos horrifique aurait dû même être un exercice de mise en scène. En l'état, Abigail est juste un énième film d'horreur trop inoffensif. Dommage.
À voir au méga CGR et au Pâté Quinconce. Hein, quand ils l'ont kidnappé pour obtenir une rançon, l'équipe de ravisseurs d'Abigail, une jeune enfant, fille d'un homme richissime, ne se doutait pas du guépier dans lequel il s'était fourré parce que la gavine s'avère être un vampire et qui n'a qu'un but, décimer ses kidnappeurs. Alors ça commence comme un polar classique, hein, presque, certains critiques l'ont souligné à juste titre, presque dans le genre Agatha Christie, hein, quelques personnages qui se retrouvent enfermés dans un manoir où rôde un danger, et le film dérive au bout d'une trentaine de minutes vers le genre film de vampire, de plus en plus gore au fur et à mesure de son déroulement. On n'a pas lésiné sur l'hémoglobine, croyez-moi. Avec donc de nombreux rebondissements, des changements d'ambiance, alliant humour noir, grand guignol, scène d'horreur. Alors le spectateur en a pour son argent et l'amateur de films de genre est comblé, voire rassasié. Ça faisait quand même un petit moment que je n'avais pas vu un film d'horreur de ce calibre, brutal, viscéral et drôle en même temps, parce que excessif dans le gore, mais bon, est-ce qu'on est jamais trop excessif dans le gore ? C'est une bonne surprise, mais uniquement pour les amateurs du genre. Que ce croisement entre film gangster et film d'horreur, où ça dézingue à tout va, mais ça n'est pas un film pour Pierre.
Alors là encore, il est interdit au moins de 12 ans. Il dure 1h43. Le synopsis...
Non, mais là, on vient de le faire, là, mon garçon, Abigail.
Non, je suis dans Salem. Là.
Ah oui, mais je te parle de Salem après. Ah. Donc, je te disais que ça n'était pas pour toi d'aller voir Abigail.
Pardon. Oui. Je croyais que c'était à mon tour.
Non, mais ça va être à ton tour, il n'y a pas de souci. Non, mais Abigail, c'est un film
pour moi,
les amateurs de films d'horreur, hein, ça c'est clair.
En plus, mais... avec du sang.
Ah oui, voilà, il y a du sang, mais des hectolitres, hein, mais vraiment. Et quand je dis hectolitres, c'est peut-être plus que même des hectolitres. Voilà, alors maintenant, on passe à Salem. Salem, cette fois-ci, c'est un film qui est proposé par... le Pâté Quinconce et le Méga CGR. Je ne suis pas absolument certain qu'ils en sont fous d'avoir sorti ce film, surtout au Méga CGR, parce que ce n'est pas vraiment le genre de film qui attire une grosse clientèle dans ce cinéma. C'est un film français de Jean-Bernard Marlin, réalisateur, scénariste, producteur, né en 79. En 2018, son premier film, Scheherazade, avait marqué les esprits. Donc c'est son deuxième long métrage. Il s'appelle donc Salem. Et Pierre, cette fois-ci, nous en parle.
Ah oui, alors donc je disais, oui. Encore une fois, il est interdit au moins de 12 ans, si ce film,
oui, oui.
Du 1h43. Alors vous allez le voir dans la revue de presse, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ce film.
Oui, il n'y a pas que...
Le synopsis, Djibril est un jeune Comorien des Sauterelles, un quartier difficile de Marseille. Il est amoureux de Camilla, une gitane du quartier rival des Grillons. Lorsqu'elle lui apprend qu'elle est enceinte, Djibril lui demande d'avorter pour ne pas déclencher une guerre des clans. Mais l'assassinat d'un ami de Djibril, sous ses yeux, va embraser les deux cités. Traumatisé, Djibril sombre peu à peu dans la folie. Il est persuadé qu'une malédiction s'est abattue sur le quartier et décide de garder à tout prix son enfant. Pour lui, seule sa fille pourra les sauver du chaos. La revue de presse, L'Obs avec Nicolas Scheller, présenté l'an dernier à Cannes dans un montage bâclé, le film a été resserré, et c'est tant mieux. On y retrouve, au-delà de quelques errances scénaristiques, ce qui illuminait chez Scheherazade, la persistance d'un amour, là où il n'y en a plus trace. Le journal du dimanche, un étonnant objet flirtant avec le trop-plein, un film aussi singulier que déroutant, qui, malgré ses maladresses, émeut et quelque part fascine. Le Parisien avec Catherine Ball, plutôt que de se centrer sur la romance shakespearienne, le réalisateur étale son récit sur différentes époques et nous perd un peu. Reste un long-métrage plein de fougue, les acteurs totalement habités. Et puis maintenant, tout le reste, c'est négatif. La Croix, avec Corinne Renoux-Nativelle, le portrait de Djibril se perd dans un mysticisme pesant, trop souligné, trop étiré. Les effets visuels auraient mérité plus de réserve et le regard sur Djibril plus d'acuité pour comprendre son angle, alors que se mêlent son point de vue et celui d'autrui. Le Monde, Marlin pousse ici à fond les manettes, pétage de plomb incessant, récit sur la longue durée, fantastique latent, embardé métaphysique, et signe un film qui n'est pas vraiment à la hauteur de ses ambitions. Les Inrecuptibles avec Rose Baldouce, multipliant les métaphores religieuses chaotiques et s'encombrant d'effets de mise en scène superflus, Salem, dans sa dimension fantastique, tire vers le caricatural. Et enfin, Libération avec Laura Tuillier. Le long métrage du cinéaste français tourne en sur-régime et s'égare entre différents genres qu'il tente de maîtriser.
Alors Salem est proposé au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Ils sont deux adolescents, Djibril d'origine comorienne, Camille gitane. Ils s'aiment, Camilla tombe enceinte, elle a 14 ans, mais le plus gros problème, c'est que tous deux vivent dans des quartiers voisins de Marseille et des communautés qui ne s'apprécient guère, euphémisme. C'est pourquoi, dans un premier temps, Djibril demande à Camilla d'avorter. À cela s'ajoute une guerre de clans au cours de laquelle Djibril se sent responsable de la mort d'un de ses amis. Il est considéré comme complice, se retrouve placé en détention. Alors, 12 ans plus tard, il sort, il retrouve sa fille, elle a grandi forcément, hein. Elle est née, elle a grandi, et il est persuadé qu'il peut lui transmettre un don miraculeux. Alors, c'est une sorte de revisite du mythe de Roméo et Juliette dans un contexte contemporain, c'est-à-dire aujourd'hui dans les cités de Marseille, gangrénées par la délinquance et la misère. Tout cela est très très fumeux, passe encore le côté documentaire sur la vie dans les cités, mais qui est quand même du déjà vu et du revu, avec les 50 mots de vocabulaire wesh-wesh, style frérot ou le sang employé à la fin de chaque phrase, et puis des dialogues qui sont même inarticulés, parce que ça parle vite, sans articulation, donc voilà. Donc, quand l'histoire tourne au mystico-fantastique, alors ça devient carrément, pour moi, n'importe quoi. De plus, le film... avec son histoire se déroulant sur deux époques, avec force flashback, a l'air d'avoir été bien charcuté au montage parce que, par exemple, on ne comprend pas vraiment pourquoi Djibril s'est retrouvé plutôt en hôpital psychiatrique qu'en prison, même si on comprend qu'il a commencé à délirer après son arrestation. Il y a d'autres éléments qui mériteraient d'être éclaircis, mais je crois que le film a été amputé carrément d'une heure au montage. Heureusement d'ailleurs, d'une certaine façon. Un film ambitieux, ça je le reconnais, mais pas du tout convaincant. Alors je souligne même pas la spontanéité des acteurs amateurs, parce que finalement, ils ne font que rejouer ceux qu'ils sont ou ceux qu'ils côtoient dans leur vie. Je n'ai pas du tout aimé, mais de toute façon, c'est un film qui est destiné à être éjecté des écrans certainement dès la semaine prochaine. Encore qu'il n'y a pas beaucoup de films qui sortent la semaine prochaine. Salem, Pathé Quinconce, Méga CGR. Et on retourne pour la dernière fois au cinéaste pour Une autre vie que la mienne, un film polonais de Malgorzata Zumowska et Michal Englert, réalisateur, scénariste, productrice polonaise de Malgorzata Zumowska née en 1973, et puis Michal Englert, réalisateur, producteur, scénariste et directeur de la photo. Ils ont déjà réalisé un certain nombre de films, mais ces films soit sont inédits, soit ont été envoyés directement en VOD, donc je ne fais pas de mention de leur filmographie. Simplement, disons que le film dure 2h04 et que c'est encore une histoire de personnage transgenre. C'est l'histoire d'Andrzej, bon mari et jeune père, dans une petite ville de Pologne. De plus en plus mal à l'aise dans son corps, il tente de trouver sa véritable identité dans un pays passé en 3 décennies du communisme au capitalisme. L'histoire de quelqu'un à qui on interdit d'être soi-même. Qu'en pense la presse ? Ben, Sophie Joubert, L'Humanité, un film sensible destiné à faire évoluer les mentalités. Cédric Page dans West France, une fresque intime où l'héroïne cherche à faire comprendre son mal-être à sa famille. Olivier de Brune dans Marianne, le duo de réalisateurs ne manque ni d'ambition ni d'intérêt, mais son académisme formel, façon téléfilm de prestige, épuise les résistances. Jean-Marc Samocchi dans Cahiers du cinéma, les cinéastes ne peuvent les installer, je pense les personnages, sans dramatiser à outrance les images, en montrant directement les séquences à partir de leur point culminant. En accusant les contrastes, il neutralise la tension dramatique et se retrouve à compenser en accumulant force ralentie à la recherche d'un espace pour l'émotion. Frédéric Strauss dans Télérama, avec sa grande ambition et ses images d'emblée superbes, cette saga promet beaucoup, mais déçoit assez vite. Haché en scènes souvent courtes, le récit passe à côté du lyrisme romanesque, souvent de l'émotion aussi. Et enfin, Xavier Leur pendant l'Obs, symbolisme appuyé, souci de casting, complexité inutile d'un scénario au laborieux aller-retour entre passé et présent, regrettable car le film ose pertinemment aller vers le politique et filme au plus juste la bouleversante complicité amoureuse de l'épouse. Nous n'avons pas vu
non.
Une autre vie que la mienne.
Déjà,
donc c'est
facile.
Proposé 2 séances par jour au cinéaste. Allez, qu'est-ce qu'on voit la semaine prochaine sur les écrans? Eh bien, déjà une avant-première lundi soir pour La Petite Vadrouille de Bruno Podalides, c'est à 19h15 au Pathé Quinconce. Et puis le film sortira ensuite mercredi avec aussi des séances au cinéaste. Le film grand public la semaine prochaine, c'est Bad Boys Ride or Die. On retrouve le duo Martin Lawrence, Will Smith. Et puis les cinéastes, je ne sais pas s'ils pourront sortir tous les films qu'ils ont envie de sortir. En tous les cas, ils annoncent La Petite Vadrouille, un dessin animé japonais Tunnel to Summer, Dissidente, un film canadien, Orlando, ma biographie politique, un documentaire, et puis Rendez-vous avec Pol Pot de Riti Pan, c'est un film de fiction parce que Riti Pan a fait beaucoup de films documentaires, et puis En attendant la nuit, un film avec Cécile Brunkel et Elodie Bouchez. Cette semaine, Pierre, tu recommandes ou tu recommandes pas ?
Bon, c'est quand même Greenhouse, mais si vous aimez les films asiatiques, parce que c'est spécial quand même.
Voilà, bon, Abigail pour les amateurs de films d'horreur, et puis Furiosa, bien sûr, pour les amateurs de films d'action. Allez, on se retrouve normalement la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Oui, au revoir.
Au revoir.